France Inter. Ali Badou, le 6-9.
Le journal Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce vendredi matin, Israël a lancé son attaque contre l'Iran en représailles aux frappes iraniennes contre son territoire le week-end dernier. Alors attaque de drones ou de missiles, difficile encore à ce stade d'en savoir davantage. L'Iran affirme n'avoir subi aucun dégât. Nous serons à Jérusalem dans un instant. Une marche blanche ce matin à 11h à Grande-Synthe à la mémoire de Philippe, 22 ans, mort des suites d'un passage à tabac. L'un des deux agresseurs mineurs a reconnu les faits en garde à vue. Fini les maillots de foot ou les crop tops. Dès la rentrée prochaine, 5 collèges des Alpes-Maritimes expérimenteront l'uniforme. Les tenues ont été présentées hier aux jeunes. Les avis sont plutôt positifs. Et puis les clés du Grand Palais remises officiellement aujourd'hui à Tony Estanguet, patron d'IGO. Le musée parisien flambant neuf après 3 ans de travaux accueillera l'escrime et le taekwondo cet été.
France Inter.
Est-ce le début des représailles israéliennes annoncées depuis une semaine par l'État hébreu?
C'est la télévision américaine qui a donné l'information. Il était 4h20 en France, 6h10 en Iran. Israël a lancé son attaque contre l'Iran. L'Iran dit avoir abattu 3 drones. La chaîne américaine ABC News affirme que des missiles ont frappé un site nucléaire iranien. Bonjour Thibault Lefèvre. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem.
Bonjour à tous.
Alors à ce stade de l'attaque, que pouvez-vous nous dire Thibault depuis Jérusalem?
Bon, écoutez, vous dire tout d'abord que c'est très flou, qu'à l'instant vous les avez cités, les responsables iraniens déclarent que rien d'inhabituel s'est produit et que les informations donc faisant état d'une frappe en Iran n'étaient que de la propagande israélienne et américaine, fin de citation. Un peu plus tôt, la chaîne ABC et le New York Times ont cité des sources israéliennes évoquant, elles, une réplique. Le journal américain cite même 3 responsables iraniens qui, eux, évoquent une frappe sur une base militaire sur la ville d'Ispahan, c'est au centre de l'Iran. Peut-être des drones interceptés, mais encore une fois, les informations sont contradictoires et il faudra encore attendre pour y voir plus clair. Ispahan, c'est donc au centre de l'Iran, pas très loin du site d'enrichissement de Natanz. C'est une ville stratégique, très peuplée, avec de nombreuses bases militaires et des centres de recherche. Tout à l'heure, des vols commerciaux ont été détournés dans le ciel iranien, des avions des compagnies Emirates et Fly Dubai notamment. Pas d'explication non plus pour le moment des deux entreprises. Depuis la nuit du 13 au 14 avril, de samedi à dimanche dernier, et puis ces premières frappes directes iraniennes sur le territoire israélien, les ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou avaient convenu d'une riposte sans pour autant préciser les modalités ou la nature. Eh bien, 5 jours après, elle semble donc se préciser, même si vous l'avez compris, il est encore tôt pour en préciser la nature.
Thibault Lefèvre, en direct de Jérusalem pour France Inter. Alors, l'Iran a bien sûr activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Les vols commerciaux ont été suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, dont ceux de Téhéran. Quant à la Maison Blanche, elle n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. L'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU devra encore attendre. Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour bloquer cette demande d'intégration à l'organisation internationale. Décision condamnée par le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien assure que son peuple poursuivra sa lutte jusqu'à l'établissement d'un État palestinien indépendant, pleinement souverain, avec Jérusalem pour capitale. Et c'est aussi devant le Conseil de sécurité de l'ONU que Téhéran disait il y a quelques heures que l'Iran fera regretter à Israël toute attaque contre son pays. C'est dans ce contexte de forte tension qu'Emmanuel Macron recevra aujourd'hui à l'Élysée et le Premier ministre libanais et le commandant en chef de l'armée libanaise. Le Liban est plongé dans une crise politique majeure et menacé par un risque d'escalade au Moyen-Orient après l'attaque d'Israël par l'Iran. Et après l'attaque d'Israël par l'Iran et après l'attaque d'Israël sur l'Iran, semble-t-il, ce matin. Un scrutin XXL en Inde, pendant 6 semaines, près d'1 milliard d'électeurs de la plus grande démocratie du monde doivent voter pour des législatives pour lesquelles le Premier ministre indien Narendra Modi est favori pour un 3e mandat.
6h05, Laurence, une marche blanche ce matin à Grande-Synthe.
Ce sera à 11h, la famille de Philippe entend rendre hommage à ce jeune homme de 22 ans, victime d'une agression mortelle c'était lundi soir en centre-ville. Le départ de la marche se fera devant le lycée, avant un passage devant les lieux de l'agression. Un passage à tabac organisé via une application de rencontre. Mathieu Darrier de France Bleu Nord.
C'est un piège que les deux adolescents actuellement en garde à vue ont tendu à la victime sur une application qui permet de faire des rencontres rapides. Ils se sont fait passer pour une jeune fille et ont donné rendez-vous à Philippe dans le centre-ville de Grande-Synthe lundi soir. On ignore encore les motivations de ces deux adolescents de 15 et 14 ans, mais il semblerait qu'ils aient déjà utilisé ce stratagème. Les enquêteurs cherchent à vérifier si ce sont eux qui ont également piégé un homme de 39 ans il y a quelques jours à Grande-Synthe. Au dernier moment, cet homme avait réussi à échapper à ses agresseurs. Les investigations portent également sur l'identification d'un autre mis en cause, puisque dès mercredi, le parquet de Dunkerque indiquait la présence de 3 personnes au moins lors de cette agression mortelle. Les gardés à vue sont auditionnés dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Ils devraient être ramenés à Dunkerque ce matin pour être présentés à un juge d'instruction et être mis en examen pour meurtre en bande organisée. Et
la violence des jeunes, le Premier ministre veut serrer la vis sur les élèves perturbateurs. L'idée lancée par Gabriel Attal est de pouvoir retirer des points sur les notes au brevet, CAP ou bac passées par l'élève qui a commis des violences importantes dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Et c'était une idée de Gabriel Attal du temps où il était ministre de l'Éducation nationale. L'uniforme pour les collégiens, la collection rentrée 2024 a été présentée hier dans l'un des 5 collèges de la Côte d'Azur où est lancée l'expérimentation. Les élèves auront 9 tenues bleues et blanches pour 250 € par collégien. C'est entièrement payé par le conseil départemental. Une manière pour l'Éducation nationale de réduire les inégalités. En tout cas, cette présentation des tenues a été suivie par Laurent Vareille de France Bleu Azur.
Du bleu et du blanc siglé au nom du collège. Voilà pour les couleurs. Pour les types de tenues, il y a des t-shirts, des polos, des sweats et une veste zippée. Maya, 15 ans, juge son nouveau style.
Le polo, par exemple, c'est pas trop le genre de tenue que j'aime bien. Enfin, les polos en général. Mais tout ce qui est de la veste, même du sweat, je trouve ça assez bien fait. Ça rend plutôt bien.
Quand on demande, les élèves sont en majorité contre. Avec un argument, on nous enlève notre liberté, notre personnalité, disent-ils, alors qu'à l'adolescence, on devrait pouvoir l'affirmer. Pourtant, Maya a quand même changé d'avis.
J'avais vraiment un a priori tout fait. Au final, de l'avoir comme ça, ici, porté, ça change complètement mon avis dessus.
Mais que pense la communauté éducative de cet uniforme ? Céline Bartoletti, la proviseure du collège d'Odé à Nice.
Moi, je ne parle pas d'uniforme et je n'en ai jamais parlé dès le départ, parce que d'abord, ça prête à confusion pour les jeunes. Pour eux, un uniforme, c'est militaire, avec des médailles, etc. Donc, je préfère la tenue commune, parce que l'établissement a travaillé là-dessus, sur le sentiment d'appartenance, sur la fierté de faire partie de l'établissement du collège d'Odé. Et donc, c'est un mot qui illustre bien notre projet.
Mais le projet du gouvernement, partagé par le département des Alpes-Maritimes, cofinanceur, c'est aussi de réduire les inégalités sociales et de lutter contre le harcèlement. Ce qui offusque la CGT Éducation, qui parle d'un coût de 2 milliards d'euros en cas de généralisation du dispositif, l'équivalent de 25 000 enseignants, qui serait beaucoup plus utile, affirme le syndicat.
Laurent Vareille, France Bleu Azur. Porte arrachée, perte d'un pneu au décollage, du plastique dans un moteur, c'est peu dire si Boeing, le constructeur américain, traverse une période noire. Ajoutez à cela 4 lanceurs d'alerte qui ont témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de graves problèmes de production des 737 MAX, 787 Dreamliner et 777.
Est-ce que ça veut dire que les voyageurs ont désormais peur de voler dans des Boeing ?
Alors, pas pour le moment si l'on en croit des agences de voyage. Philippe Lefebvre, vous êtes notre spécialiste tourisme. Quand on réserve un billet d'avion, Philippe, peut-on savoir à l'avance dans quel avion on va se trouver et surtout si c'est un Boeing et si l'on peut annuler son billet?
Si vous achetez directement vos billets auprès d'une compagnie aérienne, sachez que celle-ci n'a pas l'obligation de vous indiquer à bord de quel avion vous allez voler. Les compagnies low cost ne donnent que très rarement cette information car généralement, elles n'exploitent qu'un seul type d'appareil, par exemple des Boeing 737 chez Ryanair ou des Airbus A320 chez EasyJet. En revanche, les compagnies traditionnelles l'indiquent bien volontiers sur leur site de vente en ligne, à la rubrique « Détails » qui se trouve généralement en bas de la case des horaires sélectionnés. Et si vous achetez vos billets dans une agence de voyage, dans le cadre d'un voyage organisé, eh bien la seule obligation est de vous indiquer sur quelle compagnie vous allez voler, histoire de pouvoir vérifier qu'elle n'est pas inscrite sur la liste des 129 compagnies interdites de vol dans l'Union européenne. Enfin, si vous souhaitez annuler vos billets parce que vous avez peur d'embarquer dans un Boeing, eh bien sachez que la peur n'est pas un motif d'annulation. La compagnie pourra éventuellement vous facturer des frais d'annulation ou plus simplement ne pas vous rembourser.
Après le village olympique, après le centre aquatique olympique, ce sont les clés du Grand Palais qui sont remises officiellement aujourd'hui à Tony Estanguet, le patron des JO.
Le Grand Palais, musée parisien à la Grande Verrière, il était en travaux depuis 2021 pour environ 500 millions d'euros. Alors il reste encore quelques travaux, mais il est désormais quasiment prêt pour accueillir les épreuves d'escrime et de taekwondo et 8000 spectateurs. Un cadre magnifique que les athlètes attendent avec impatience, à l'image de l'épéiste Yannick Borel, ancien médaillé d'or par équipe à Rio. Il va vivre ses quatrièmes Jeux avec grand plaisir.
J'ai été au championnat du monde d'escrime en 2010, j'étais dans les grades. Hein. Donc j'ai une idée, j'ai un souvenir en tout cas de ces championnats du monde. Il y a encore de belles photos qui circulent, ça montre que ça peut être, esthétiquement, ça peut être une belle compétition. Après, il faudra quand même oublier ce cadre parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique, on sera quand même là pour être performant. Et en tout cas, c'est une salle en tout cas où je pense que, comment dire, si le public fait du bruit, ça va se ressentir, on va vibrer sur la piste avec. Ça, c'est quelque chose que j'espère vivre intensément.
Yannick Borel avec Emma Sarango.
L'Esprit Sport à présent avec vous, Jérôme Val, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Esprit Sport olympique depuis cette semaine et jusqu'au JO de Paris cet été. Un nouveau portrait ce matin d'un athlète qui va, on va l'espérer en tout cas, briller avec les Bleus. Il s'agit, Jérôme, de Thomas Vernoux, sans doute le meilleur joueur de water-polo au monde.
Et ce qui vous frappe quand vous croisez Thomas Vernoux en sortie des bassins, bien c'est sa carrure, 1m96, 106 kilos. Et des pectoraux à vous donner des complexes. À 22 ans, le Marseillais ne cesse d'impressionner avec son club, le Cercle des Nageurs de Marseille. Mais surtout avec les Bleus, l'équipe de France a fini quatrième des derniers championnats du monde au Qatar en février, après avoir notamment battu en quart de finale la Hongrie, qui était championne du monde en titre, grâce à un but, évidemment, de Thomas Vernoux. Et cet été, les Bleus viseront une médaille, ce que le water-polo français n'a plus réalisé au JO depuis 1928.
Thomas Vernoux, c'est un jeune joueur et déjà un cadre de l'équipe de France et c'est un modèle de précocité.
Oui, 22 ans, je le disais, déjà plus de 70 sélections avec les Bleus parce que Thomas Vernoux a intégré la sélection à l'âge de 14 ans. Il faut dire qu'il baigne dans le water-polo depuis longtemps. L'oncle Yann Vernoux est un ancien capitaine français. Sa cousine Emma est elle aussi internationale. Et l'un de ses cousins, Romain Marion Vernoux, est également en équipe de France. Et pour couronner le tout, il nage extrêmement vite. Le jeune homme suit en parallèle de son sport un cursus aménagé en école d'ingénieur à Polytechnique. Il joue du piano. Il est passionné d'astronomie. Profil idéal qui fait dire au capitaine français Hugo Cruzilla.
C'est notre phénomène. C'est un peu notre Mbappé, notre Wembanyama du waterpolo français.
Voilà, rien que ça, à lui donc de le prouver cet été.
Rien de moins, c'était l'Esprit Sport de Jérôme Val.